Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Soyez les bienvenus sur votre libre antenne. Nous avons 2 heures à passer ensemble, 2 heures pour apprendre à nous connaître, 2 heures pour nous parler. Parce que quel que soit ce qui vous préoccupe, en parler, c'est souvent le premier pas vers le chemin d'une solution et peut-être surtout vers le chemin d'une acceptation. Je le répète souvent sur cette antenne, pour pouvoir avancer, il faut se délester. Pour pouvoir transformer une situation, il faut d'abord l'accepter. Sinon, toute l'énergie qu'on met à lutter contre, on ne la met pas à construire pour. Évidemment, plus la situation est douloureuse, plus il est difficile de l'accepter. C'est pour ça qu'en parler peut vous aider. On dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime et nous déprime. Alors venez exprimer ce soir ce qui vous préoccupe. Vous êtes chez vous sur cette libre antenne. Venez donc y déposer vos mots, M-O-T-S, et vos mots, M-A-U-X. Vous avez 3 moyens pour nous joindre. Le téléphone, vous m'appelez au 3921 et vous vous laissez guider. Les SMS, surtout pour réagir, donner votre point de vue, soutenir ou conseiller. Là, vous faites le 739-21 en commençant bien par le mot « nuit » en majuscule. Et puis les mails à l'adresse suivante, libreantenne, en un seul mot, @europe1.fr. Toute l'équipe est là pour vous. Ce soir encore, Fabrice Fougerouze à la réalisation et Stella et Maxime au standard.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et ma question du jour pour mieux vous connaître, elle est de circonstance. À quel âge, jusqu'à quel âge avez-vous cru au Père Noël? Jusqu'à quel âge y avez-vous vraiment cru? Répondez-moi par SMS 739-21. Vous commencez par le mot nuit, suivi de votre réponse. Et je démarre cette émission avec l'appel de Christine. Bonsoir Christine.
Bonsoir Sabine. J'espère que vous m'entendez bien.
Ça va, oui, je vous entends bien.
Voilà, c'est avec beaucoup de fébrilité que je prends la communication. Vous allez comprendre assez vite pourquoi.
Ça va bien se passer. Respirez. Déjà, j'ai l'impression que la respiration est un peu en apnée, là.
Un petit peu, parce que j'ai l'impression de passer un examen. Mais si vous allez très vite pour comprendre pourquoi.
Oui.
Je pense, avec le confinement du mois mars et avril, je me suis beaucoup interrogée parce que j'ai des difficultés à m'entendre avec mes enfants et j'ai essayé de prendre ma part de responsabilité et de comprendre pourquoi.
Oui.
Donc j'ai vraiment eu le temps, d'autant que j'ai eu le Covid, donc ça arrangeait bien les choses. J'étais pas, enfin, comme tout le monde, restée à la maison. Et j'ai l'impression que tout a commencé in utero. Ça veut dire que je suis née pendant la guerre. Et ma mère a dû évacuer, enfin mon père n'était pas là, je ne sais pas où il était, mais enfin peut-être, ça, je ne sais pas. Mais enfin, bon, mes parents sont restés ensemble, bien évidemment. Et je suis née donc à Montpellier, et ma mère, pendant l'évacuation, a appris le décès de sa sœur, morte dans les bombardements d'une gare du nord de la France.
Elle était enceinte de vous, de combien
oui.
À ce moment de
C'était au mois de mai et moi je suis née au mois d'août.
Oui, donc vous avez dû absorber pas mal de stress.
Je pense, en tout cas, l'émotivité et la sensibilité, bon, je ne sais pas si ça vient forcément de là, mais il y a tout un contexte après. Donc je suis la seconde, mon frère est né 2 ans avant moi, et viennent ensuite 2 autres sœurs, et puis un dernier frère. Donc une fratrie de 5 enfants. Et nous avions, parce que maintenant il est décédé, mais nous avions un père très, très exigeant. Je dis, presque un dictateur. Il était directeur administratif dans une grosse société, dans une grosse entreprise. Et vraiment, on n'avait pas la parole, mais enfin, c'était l'époque. Hein. Et de toute façon, personne ne se serait jamais, mais jamais, opposé à lui.
Et puis j'imagine que quoi que vous fassiez, c'était jamais assez bien.
Alors, qu'est-ce que vous avez de la chance, monsieur et madame Intel ? Vous avez vraiment beaucoup de chance. Vos enfants travaillent bien. C'est pas
ah
le cas.
Mon Dieu, ça c'est...
Ah, on a entendu.
L'humiliation totale.
Complètement. Complètement. Et surtout, surtout moi. Moi, j'étais maladroite. J'étais nulle. Et à la limite, quelquefois, on ne m'adressait même pas la parole parce que j'étais... Je ne comprenais pas. J'étais pas intelligente.
Vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça des ancrages de croyances limitantes. C'est-à-dire qu'un ancrage, c'est quelque chose qu'on finit par croire parce qu'on nous l'a tellement répété.
Tout à fait.
Et ça devient une croyance limitante. C'est-à-dire, à force de m'entendre dire que je suis stupide, je finis par vraiment l'intégrer, plus ou moins inconsciemment, et je finis par le croire. Et ça devient une réalité pour moi.
Absolument.
Alors que ça n'est pas du tout la réalité, c'est juste quelque chose que quelqu'un qui, malheureusement pour moi, avait de l'importance, pour les raisons évidentes qu'on devine. Et cette personne-là, vous lui avez forcément donné le pouvoir de vous laisser, de lui laisser vous faire du mal, quoi.
Tous les cinq, y compris ma mère.
Oui. Ouais.
Et ça m'a poursuivi très longtemps, jusqu'au jour où jusqu'à mon mariage, où finalement mon mari, que j'ai adoré d'ailleurs, malheureusement qui est mort beaucoup trop tôt, 49 ans, lui, alors là, il était face à mon père. C'était... Il s'est opposé.
Ah, il lui tenait tête ?
Ah, absolument. Et mon père adorait ça.
Ah, ça, c'est intéressant, ça.
Complètement, complètement.
Et vous, ça vous faisait quoi de voir votre mari capable de tenir tête à votre père ?
Eh bien, moi, ça me réconfortait.
Eh oui.
Parce que je me disais, voilà, enfin, quelqu'un qui va me défendre. Parce que... Mais enfin, bon, si vous voulez, toute notre enfance a été réglée comme ça. On a tous développé des moyens de défense très différents. Moi, je pleurais tout le temps. Bon, et puis à chaque réunion de famille, j'étais dans mon petit coin, je n'osais pas me montrer. Et effectivement, puisque de toute façon, j'avais une peau de crapaud.
Ouais, donc,
des autres jours.
Pardon. Allez-y.
Des autres jours, c'était plus agréable. J'avais une peau de canard. Bon, enfin bon. De toute façon, j'étais déjà tellement moche à ma naissance. Bon, enfin, ça m'a jamais tellement troublée parce que finalement, maman disait toujours l'aide au berceau, belle au bal. Donc, bon.
Ça compensait l'autre.
J'avais peut-être une chance. Mais enfin, bon. Et donc, si vous voulez, c'était là. Jusqu'au jour, à 16 ans, je disais, mon Dieu, mais si seulement il pouvait mourir. Et on n'était pas maltraités physiquement, mais psychologiquement, on était tous atteints. Et la sœur qui me suivait, alors elle a développé autre chose, elle mentait tout le temps. Elle affrontait, mon père l'aimait bien parce que finalement, elle le flattait et puis elle mentait, voilà. Ma sœur, quatrième de la fratrie, malheureusement, elle est décédée à 19 ans dans un accident de voiture. Mais alors, Domi, elle faisait pipi dans sa culotte. Elle était sans défense. Quant à Xavier, il n'a jamais rien fait. Et de toute façon, ça ne servait pas à grand-chose. Il n'a jamais rien fait. Voilà. Et au contraire, on a tous été dans cet établissement catholique privé. Tous fait du scoutisme. Mais Xavier, il hésitait... porté toujours volontaire pour aller, servir pour les enterrements parce qu'il avait un redoudou en sortant. Et puis au moins, pendant ce temps-là, il n'était pas dans la classe. Mmh. Enfin bon, tout ça, ça m'a suivi jusqu'à assez tard finalement. À 18 ans, je suis partie un jour au fond du jardin à me mettre à hurler. Enfin je pouvais hurler. Mais psychologiquement, on ne s'en rendait pas compte.
Bah forcément, quand on est petit, on n'a pas de point de comparaison. C'est quand, c'est quand on grandit qu'on réalise ça. Et souvent quand on devient parent soi-même d'ailleurs, qu'on se dit, mais il y a quelque chose qui n'allait pas dans la manière dont on m'a éduqué, dont on m'a parlé, dont on m'a traité.
Oui, mais alors il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est que quelqu'un a posé la question à ma mère en disant... De vos cinq enfants, lequel ressemble le plus à leur père ? Et ma mère m'a cité. Mmh. Et c'est Christine.
Mais ressemble, elle parlait de ressemblance physique ou psychologique ?
Psychologique.
Aïe.
Donc physiquement, on a tous les yeux de ma mère, on est tous plus côté de ma mère physiquement. Sauf Marie-Hélène, enfin la troisième, enfin ma sœur un peu plus jeune, qui elle, bon, est mythomane, kleptomane. Mais enfin bon, ça c'est son problème. Mais je me souviens de choses mais terrifiantes. On avait un très grand jardin, une grande maison et beaucoup de groseilliers. Et un jour, bon, on devait tous bien sûr s'y mettre. Bon, c'était comme ça. Et je me rappelle que mon père, tous mes frères et sœurs étaient partis avec maman dans notre villa sur la côte d'Opale. Et moi, j'étais restée. Et je devais aider mon père à faire la confiture de groseille. Écoutez, il fallait égrapiller les groseilles. Je l'ai fait. Il en a trouvé une grappe qui n'était pas égrapillée.
Oui, c'est ça.
C'était bonne à rien.
Quel que soit le contexte, ce genre de personnage, de toute façon, trouvera toujours à redire. Quoi. Ouais. Christine, on marque une pause, on laisse passer la pub et je vous retrouve tout de suite.
Oui, pas de souci.
Merci. Christine.
Oui.
Non, voilà. Donc, vous me disiez, oui, que quel que soit ce que vous fassiez, de toute façon, il allait toujours trouver le petit truc qui ne va pas, même dans un océan de choses qui allaient, il allait trouver le.
Voilà, il allait trouver
le truc vraiment qui n'allait pas pour appuyer
absolument
dessus, quoi. Bah oui, forcément.
Pour appuyer dessus.
C'est un mode de fonctionnement, donc ça, y a aucune raison que ça change.
Non, enfin, bon, maintenant, il est décédé à 98 ans, quand même.
Ah oui.
Avec toute sa tête. Mais le jour de l'enterrement de ma sœur. Ben, j'étais en train de me laver les mains et je le voyais arriver dans la glace. Et il m'a dit, si ta sœur est morte, c'est de ta faute.
Ouh.
Prenez cette figure.
Et alors, c'était quoi l'argument d'après lui, c'était quoi ?
Ma conduite, parce que je fréquentais un homme marié, alors que lui, il avait une maîtresse depuis déjà au moins 8 ans. Hein. Enfin bon, ça, on ne le savait pas. Et je fréquentais un homme marié, bon, c'est tout, j'avais 23 ans. Et puis... Et puis voilà. Et le soir de l'enterrement, il m'a convié dans son bureau avec ma mère. Il m'a dicté une lettre pour la femme de ce monsieur qu'il a lui-même envoyée.
Ah pardon, mais je ne comprends pas le rapport avec la mort de votre sœur. En quoi le fait que vous sortiez
avec... Je l'ai pris en pleine figure.
Non mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Tu as tué ta sœur, pourquoi ?
Je ne sais pas, je n'ai jamais su.
Ah oui, il avait même
ma
pas...
Faute, ma faute, si je n'avais pas cette conduite, ben voilà, ma sœur serait pas... C'était un accident de voiture.
Mais je ne vois pas le lien, c'est absurde.
Quatre dans la voiture, deux trois tués, et puis malheureusement le chauffeur aussi. Heureusement le chauffeur s'en est sorti, mais enfin bon.
C'est très malheureux, mais ça n'a aucun rapport avec vos relations sentimentales, parce que c'est complètement délirant.
Non, mais de toute façon, il fallait peut-être qu'il me blesse ou qu'il me dise quelque chose. Et... Le jour où j'ai quitté la maison, j'ai dit d'ailleurs à ma sœur Marie-Hélène, donc, puisque c'est elle qui avait raconté que je sortais avec un homme marié, je lui avais dit, Marie-Hélène, de toute façon, je suis comme les éléphants, jamais j'oublierai ce que tu m'as fait. Jamais, de toute façon, j'ai jamais oublié. Enfin bon, les rapports sont différents maintenant. Mais c'est vrai que quand je me suis mariée, j'ai fait une personne de ma famille. Mon père, c'est la seule personne qui m'a conduite. C'est lui qui m'a conduite
à l'hôtel.
Mais comme mes parents étaient divorcés et qu'il fallait choisir entre mon père et ma mère pour venir au mariage, j'ai dit, écoutez, vous vous débrouillez. Et puis, bon, c'est donc ma mère qui est venue au mariage, mais mon père qui m'a conduite, puis il est reparti après. Mais enfin, bon. Mais il aimait beaucoup mon mari parce qu'il lui tenait tête. Bon, on était tous les deux, mon mari était dans l'enseignement et moi, bon... Moi, je voulais toujours être puéricultrice. Et en fait, j'ai été psychagénésiste, c'est-à-dire éducatrice spécialisée. Et je m'occupais d'enfants à troubles du comportement et de la personnalité.
Mmh.
Pas par hasard.
Je vous le tirez de la bouche, bien sûr, évidemment.
C'est pas par hasard. Mais en fait, c'est pas vraiment ce que j'avais choisi. Mais,
c'est ce que la vie a choisi pour vous.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et on a eu une vie très heureuse pendant pendant 27 ans. Et si je vous disais qu'il est toujours là, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui me guide, mais c'est incroyable. Après sa mort, je n'ai pas su entendre la souffrance de mes enfants.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre mari ?
Un cancer du poumon, il est parti en 4 mois de temps.
Oh là là, fulgurant. Ouais.
Fulgurant. Mais d'ailleurs, j'en suis toujours pas remise, et 26 ans après.
Et les enfants, avec quel âge à ce moment-là ?
23, 20, 21 et 24.
Ils étaient adultes alors, en tout cas.
Oui. Ma fille était en troisième année de pharmacie, et mon fils est délégué médical. Okay. Et donc, mon fils habite le Morbihan, ma fille habite maintenant Toulouse. Elle a le droit de petits loups qui sont adorables, avec qui je m'entends très bien, mes petits-fils. Et mon fils a une fille, bon, voilà. Mais bon, il n'est pas stable en amour. Je crois que j'ai fait le calcul. Si j'ai la chance de rencontrer quelqu'un maintenant, ce sera la 11e ou la 12e. J'ai plus envie de connaître personne. Enfin bon, bref. Mais je crois que je m'y prends pas bien avec mes enfants, parce que je sais parce que j'ai essayé de comprendre vraiment. J'ai dit bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je crois que la solitude me pèse énormément, et à chaque fois que je veux faire une bêtise, c'est le cas de le dire, j'ai toujours mon mari qui est à côté et qui me met quelqu'un de sur ma route. En fait, j'avais plus de relations de comment dirais-je amicales avec des gens, etc. Et puis là dernièrement, on m'a demandé de bien vouloir tenir une permanence à l'accueil de la paroisse. J'ai dit oui. Et je suis ravie parce que je rencontre des gens. J'ai lié des amitiés avec des uns et des autres. Et vraiment, bon, je me sens nettement, nettement mieux. Et là, je vais passer Noël chez ma fille, mais j'y tenais pas. Mais enfin, c'est pour mes petits-fils que je le fais. Parce que le mois de février, ça s'est pas bien passé. Sur 5 jours que j'ai été chez ma fille, elle a jamais pris un petit déjeuner avec moi. Jamais. Soit avant, soit après. Mais jamais en même temps. Ça m'a beaucoup blessée.
Vous l'avez demandé pourquoi ?
Non. Non, je ne lui ai pas demandé. Voilà, c'est ça qui... C'est ça.
C'est là que ça bloque.
Des actes, oui, voilà. Je pose des actes comme ça. Là, je ne dis rien. J'encaisse. Et puis jusqu'au jour où ça claque, quoi. J'ai eu mon anniversaire, il était prévu. Alors là, vraiment, j'ai fait fort. Il était prévu qu'on le fasse chez mon fils. Ma fille était en vacances avec ses enfants et son mari. On devait tous se retrouver chez mon fils dans le Morbihan. J'étais allée. Et comment dirais-je, je suis partie à 11h du matin. Je suis arrivée à 4h de l'après-midi. Mes petits-fils étaient là. Donc, j'ai dit, bon, vous partiez quelque part. Ils disent, oui, on allait à la pêche à pied. Bon, je vous accompagne. Et j'avais oublié mon téléphone dans la voiture.
Pardon, Christine, mais vous voulez en venir où ? Parce que là, je...
Oui, je voulais en venir, justement, je voulais en venir à l'acte que j'avais posé. Martin va chercher mon téléphone. Il m'a dit, mamie, t'as 3 messages, dont un du ex de mon fils. Et il ne comprenait pas, mon fils n'a pas compris pourquoi j'étais restée en contact avec elle. Il m'a fait une scène terrible. À tel point que j'ai dit, bon, bah, je repars. J'ai fait l'aller-retour, le Morbihan, la région dans laquelle je suis, la banlieue parisienne. Je suis arrivée à 2h30 du matin. J'étais même étonnée de ne pas avoir eu d'accident, de ne pas avoir... Et il y a encore quelque chose qu'il faut... Donc, vraiment, j'ai marqué le coup. Ils étaient foudrage. Ma fille m'a dit... ils se sont mis en contact par téléphone. Ma fille m'a dit, depuis la mort de papa, tu nous as pourri la vie. Bon, je lui ai dit, alors, si c'est dans ces conditions-là qu'on allait péter mon anniversaire, c'était pas la peine.
Mais pourquoi êtes-vous resté en contact avec cette femme ?
Parce que c'était la seule avec qui j'avais de bons rapports.
Bah, oui, mais vous pouvez imaginer quand on se sépare de quelqu'un, il y a de quoi, non ?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
À moins que les choses soient jouées carte sur table et qu'on en parle et qu'on dise, voilà, écoute, est-ce que ça t'ennuie si je reste copine avec elle? Je l'aimais bien et tout. Mais si les choses sont faites en cachette, il y a de quoi être très, très énervé. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, alors, c'est... je le regrette après, mais c'était fait, quoi. Voilà. C'est ça, le problème. Bon. Et oui, je sais qu'effectivement, je leur ai certainement pourri la vie. Mais je n'ai jamais accepté, j'étais amputée de la bonne partie de moi à la mort de mon mari, comme s'il avait pris le meilleur de ce qui me restait. Et puis c'est le mauvais côté qui est resté.
Alors, moi je vous trouve dure avec vous-même, mais il y a quelque chose que je trouve formidable. C'est que très très souvent, et notamment dans cette émission, on entend des témoignages de mères qui viennent critiquer leurs enfants et qui leur mettent tout sur le dos. Et vous, à l'inverse, vous vous remettez en cause.
Ah oui,
vous prenez...
absolument.
Eh bien, je trouve ça formidable, justement. Et je trouve ça extrêmement courageux d'être capable de se dire, ok, quand il y a un problème dans une relation, peut-être j'ai ma part aussi.
Ah oui, mais
chacun porte un côté de la relation. Et oui, c'est certain, mais il y a tellement de gens qui n'en ont pas conscience, soit qui le refusent. Et c'est tellement plus facile de dire, c'est pas de ma faute, c'est eux qui sont ingrats, c'est eux qui sont comme ci, comme ça. Et déjà, je trouve vraiment formidable que vous ayez pris ce temps de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait moi qui déraille? Qu'est-ce qui ne va pas, quoi?
Oui, mais justement, c'est là où je me dis, comment je peux arriver à retrouver la confiance. Ils ont fait après, maintenant, mes enfants ont repris contact avec moi en parlant de rien, comme si de rien n'était, mais moi, ça reste derrière.
Ah oui. C'est pas avec eux que ça va commencer, c'est entre vous et vous. On va en parler simplement. Donc, oui. Avec votre fils, il y a eu cette histoire d'ex. Là. Avec votre fille, qu'est-ce qu'elle vous reproche? Elle, vous savez, qu'est-ce qu'il y a eu comme clash?
Et il y en a eu deux où j'étais responsable. Responsable, vraiment. Je lui avais écrit d'ailleurs une très longue lettre après. Parce que, vous savez, quelquefois, quand on attend tellement près ses enfants, ma fille faisait des stages un peu partout, elle allait dans ses études de pharmacie, elle était assistante d'un côté ou de l'autre, elle est partie en Guadeloupe, elle est partie... J'ai senti qu'ils avaient envie de s'éloigner de moi, de ne plus me voir ma tristesse et que je ne contrôlais pas. Et donc, je l'attendais tellement que finalement, j'avais préparé un bon repas, etc., et j'avais invité une amie commune. Elles étaient en train de parler toutes les deux. Et moi, j'étais dans la cuisine, en train de préparer mon petit repas. Et à un moment, elle m'a dit, « Maman, viens avec nous prendre l'apéritif ?» Et j'ai répondu, « Non, la bonne, elle reste à la cuisine. »
Oh là là. La victimisation, là, c'est pas la bonne carte, ça.
Et
vous avez tellement peur d'être rejetée que vous interprétez toute situation comme un rejet.
Voilà, absolument. C'est tout à fait ça. Et elle a pris toutes ses affaires, elle était dans la machine à laver, elle a tout pris comme ça, dans un sac, elle est partie.
Oui, bien sûr, mais c'est preuve d'une grande souffrance de votre part, et c'est très très maladroit, mais une fois plus, je trouve ça très bien de vous en rendre compte.
Oui,
parce
mais...
Parce que se victimiser pour des enfants, c'est insupportable, d'être face à une mère qui endosse ce rôle de victime. Je suis la bonne, je vois bien que vous n'en avez rien à faire de moi. Donc vous ne m'aimez pas, grosso modo le message qui passe, c'est ça. Alors qu'il est totalement faux.
Et oui, mais j'ai l'impression qu'effectivement, ma fille, je crois que, je ne sais pas si Laurence, elle m'aime bien. Christophe, je sens qu'il a besoin de moi. C'est souvent qu'il m'appelle, qu'est-ce que tu fais maman, etc. Bon, il peut être aussi comme son grand-père, hein, vraiment... quelquefois difficile. Mais bon,
je vous coupe parce que c'est très important ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, il a besoin de moi.
Oui.
Donc chez vous, avoir besoin de quelqu'un, ça veut dire l'aimer. Et donc dès qu'on vous montre qu'on n'a pas forcément besoin de vous, vous pensez qu'on ne vous aime pas.
Oui, vous avez raison.
Alors oui, que ça... Eh oui, mais c'est pas du tout la réalité, ça.
Alors que finalement, moi je pense qu'au bout du compte... Mon père nous aimait bien. Je reviens dessus parce qu'il nous a fait faire beaucoup de voyages, etc. Ou finalement, bon, attention.
Probablement, comme tout parent, normalement, à moins d'être vraiment malade, forcément, il vous aimait, mais il était lui-même en train d'exprimer des tas de souffrances, des tas de blessures en se comportant comme ça. Peut-être il a reproduit des schémas, peut-être il avait des...
Bon, il était l'aîné de 4 garçons, ça ne devait pas être très simple, mais bon, c'était peut-être aussi la période, etc. Mais enfin, bon, c'est vrai que les vacances chez nous, c'était d'abord de prendre un papier, un crayon, de marquer tout ce qu'on avait fait, etc., de visiter les musées, les églises,
mais j'ai compris. La mer. Il était dans l'hyper-contrôle de tout et de tout le monde.
Oui.
Mais ça aussi, c'est ce besoin d'hyper-contrôle, c'est signe d'une grande souffrance intérieure. Quand on est bien avec soi-même, on n'est pas comme ça. Mais peu importe, là, c'est pas ça qu'on est en train d'expliquer. C'est de comprendre votre comportement à vous par rapport à vos enfants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer dans quelques instants une courte pause. Et ensuite, je vais vous donner une formule magique. Non, mais je rigole pas, vous allez voir. Une vraie formule magique pour arriver justement à ne plus se mettre dans des situations comme ça où... En fait, vous savez très bien que c'est pas comme ça qu'il fallait réagir. Mais c'était plus fort que vous. Et puis, voilà. Une fois que c'est fait, une fois que les autres sont blessés, et vous aussi, vous vous dites, mais voilà, c'est pas ça que je voulais. Et vous allez vous excuser probablement derrière. Et puis, ça va recommencer. Donc, pour couper court à tout ça, je vous donne une formule magique dans un instant, d'accord? Vous ne bougez pas?
Je ne quitte pas, là, non.
Merci, Christine. À tout de suite. Christine,
oui,
alors, on va arriver à cette formule magique. Si on reprend l'exemple que vous venez de me donner, qui est très très parlant de ce qui s'est passé avec votre fille et cette amie. On se concentre sur les faits. Elle est dans le salon en train de prendre un thé ou un apéritif, peu importe. Vous êtes dans la cuisine en train de préparer quelque chose, ce qui est normal, puisque c'est vous qui les invitez. Ou en tout cas, c'est vous qui avez envie de le faire. J'imagine que personne ne vous a obligé à le faire.
Oui, bien sûr, la joie de l'avoir fini.
Voilà. Exactement, sauf qu'à ce moment-là, la partie de vous qui va s'exprimer, c'est la partie blessée. C'est celle qui a peur d'être rejetée.
Oui.
Et donc, elle va interpréter. Elle va interpréter la situation, non pas comme la réalité, à savoir ma fille est juste en train de prendre... C'était quoi ? Qu'est-ce qu'elle buvait à ce moment-là ?
Je ne sais même plus. L'apéritif,
d'accord.
C'était avant le repas du soir.
Ok, oui. Donc la réalité, c'est simplement, ça aurait été de se dire, ma fille et mon ami, notre ami, prennent juste l'apéritif pendant que je termine de préparer. Sauf que comme c'est pas la partie apaisée de vous qui réagit, mais la partie blessée, cette partie-là, elle va transposer tout de suite l'interprétation qui va être « évidemment, elle n'en a rien à faire de moi, de toute façon, je suis la bonne ». Et ça, exactement ce genre de discours interne. Et ce genre de discours interne, cette interprétation, vous l'avez prise pour une réalité. Et donc, vous êtes rentré dans l'art, si je puis me permettre. Vous êtes allé au créneau et vous avez attaqué.
Mais en fait, c'est assez souvent comme ça.
Évidemment, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce qu'il est très typique. Et de ce que j'entends de votre histoire, vous fonctionnez comme ça. Mais c'est logique, c'est la même blessure qui fonctionne de la même manière, avec des petites variantes. Mais sur le fond, c'est un peu toujours pareil. Donc la formule magique, et je vous conseille de l'écrire quelque part, à chaque fois que vous sentez que quelque chose monte comme ça, c'est la formule des quatre « je ». Je, J-E. Hein.
Oui, oui.
Je ne sais rien. Je ne crois rien. Je n'imagine rien, je me concentre sur les faits.
Oui.
Je ne sais rien, je ne crois rien, je n'imagine rien, je me concentre sur les faits.
Oui.
Et c'est vraiment une manière de mettre une barrière tout de suite sur cette fichue manie qu'on a d'interpréter les choses et de nous raconter immédiatement une histoire qui n'est pas la bonne.
Il y a encore quelque chose que je voulais ajouter, c'est que finalement, ça ne va pas vous étonner. Bon, je n'ai pas confiance en moi et je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais je crois que ça va ensemble. Si je vais quelque part, je vais à l'inverse. Maintenant, je me dis, mais bon, si je dis que je m'en vais à droite, il faut que j'aille à gauche parce que de toute façon, je vais à l'inverse. Allô ?
Oui ?
Oui, je pensais. Et puis je n'ai pas confiance en moi, mais il y a des gens, enfin, je vais parler de mon gendre, finalement, là, c'est pareil, quand j'ai mes petits-enfants chez moi, je suis toujours en train de me dire, est-ce que je fais bien ?
Mais c'est la même chose, c'est le même schéma qui se répète, c'est toujours pareil.
Oui, mais alors il me dit, oui, de toute façon, quand ils sont chez toi, ils regardent des dessins animés de merde. Mais bon sang, moi, j'ai une amie qui m'a dit, mais quand tes petits-enfants sont chez toi, c'est toi qui décides, t'en as rien à foutre de ce qu'il va te dire. Et c'est tout. Mais bon... En fait, j'essaie de faire ce que je peux, puis voilà.
Pour en revenir à vous, ce qui me paraît très important, avant même de travailler sur cette relation à l'autre, vous avez dit aussi quelque chose d'important. Vous avez dit, je ne me suis pas remise de la mort de mon mari.
Oui.
Et bien là, il faut vraiment vous faire aider. 26 ans, c'est ça?
Oui, 26 ans.
Ah ouais. Est-ce que vous avez travaillé avec un psy là-dessus pour faire le deuil de votre mari?
Alors oui, j'avais travaillé après la mort de mon mari d'ailleurs, avec un psychiatre qui a pris sa retraite. Donc, j'ai travaillé quand même quelques années. Bon, dans mon travail aussi, d'éducatrice, on travaillait avec des psychiatres, des psychologues, etc. Donc finalement, j'étais quand même très, très aidée à ce moment-là, dans l'ensemble de mon travail même.
Mais pas depuis.
Et le psychiatre aussi, oui. Et puis là, j'avais repris l'année dernière avec une psychologue où finalement, là c'est pareil, il y a eu un clash avec mes petits-enfants. Je lui ai raconté, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit, j'étais en train de me noyer, vous m'avez mis le pied dessus pour que je me noie encore plus. Alors j'arrête. Et j'ai arrêté.
J'ai pas compris l'histoire du pied. C'est la psy qui vous a enfoncé?
Oui, c'est à la psy que j'ai dit ça. Oui, parce que j'avais eu un clash avec mes petits-enfants et je lui ai expliqué.
Oui.
Et elle m'a renvoyé d'une façon très, très brutale.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà.
Au lieu de vous aider, ça vous a enfoncé.
Alors j'ai dit, ben vous m'avez, j'étais en train de me noyer, vous m'avez mis le pied sur la tête pour que je me noie.
Bon, c'était pas la bonne personne, ça. Bon, ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver.
Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il y a quelque chose de là. Non seulement il y a cette blessure de rejet là chez vous qui vous fait tout interpréter de travers.
Oui.
Et qui vous fait du mal, mais surtout, au-delà de ça, si on creuse encore un peu plus, vous avez tellement peur d'être rejeté.
C'est tout à fait ça.
Et surtout parce que j'ai l'impression que. L'impression que j'ai en vous écoutant, c'est que vous avez le sentiment qu'il n'y a que votre mari qui vous comprenait et qui vous aimait.
Mais c'est certain. Oui, absolument. C'était un rempart pour moi.
Et voilà. Et comme le rempart n'est plus là, c'est un peu je fais n'importe quoi. Je panique, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur qu'on mange. De toute façon, il n'y a que lui qui me comprenait. Et là, je sors les griffes. Et je griffe tout ce qu'il y a autour. Puis après, je comprends que ça ne va pas parce que tout le monde est malheureux, moi la première, quoi. Et c'est ce schéma-là qu'il faut arriver à couper chez vous. Ce cercle vicieux-là qu'il faut stopper.
Oui, vous avez complètement raison.
Il faut vous réconcilier.
Raison, mais j'ai quand même aimé ce travail que j'ai fait toute seule, finalement, pendant le confinement, en disant, bon voilà, il faut que je trouve qu'est-ce qui fait que effectivement, je fais ce genre de bêtises, quoi. Ça, c'est même plus des bêtises. C'est que je me fais rejeter, mais c'est moi qui provoque.
Oui.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez tout entendu ce que je vous ai dit, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais je vous invite à réécouter l'émission en podcast, Christine.
Oui.
Parce qu'on s'est dit beaucoup de choses et je vous ai dit beaucoup de choses ce soir.
Oui, j'ai bien entendu. Oui.
Qui sont des petites clés que je pose sur votre chemin, à vous de les prendre ou pas après.
Absolument. Tout à fait. Oui. Mais je vais bien y réfléchir. Et puis, faire preuve de tolérance déjà. Puis faire attention.
C'est pas tellement ça, là. C'est vraiment, vraiment arrêter d'interpréter les choses.
Oui.
Et dites-vous que quand vous les interprétez, ce n'est pas vous qui interprétez, c'est la partie de vous blessée.
Oui, une blessure qui remonte très loin, finalement.
Bien sûr, mais nos blessures, elles peuvent remonter très très loin. Simplement, si vous vous laissez mener par le bout du nez, par cette partie-là de vous, elle va toujours être dans une surréaction qui déclenchera des situations qui vous font du mal et qui font du mal aux autres.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, Sabine, de m'avoir vraiment éclairée sur ce problème-là.
Et moi, je vous remercie beaucoup aussi d'avoir été capable de cette remise en question. Et je ne suis pas la seule, il y a quelqu'un qui n'a pas signé, mais qui met un immense merci à Christine de se remettre en question vers ses enfants. Il y a tant de parents qui se disent parfaits et qui ne comprennent pas que leurs enfants leur tournent le dos et souvent à raison. Enfin, une bonne mère, dit-on de vous, voyez.
Ce serait merveilleux, mais bon.
Et vous savez, souvent, quand on prend conscience des choses, c'est que la moitié du chemin est déjà faite.
Oui. Hein? C'est très gentil de votre part. Et puis je vais suivre vraiment vos conseils. Et oui, c'est vrai, je crois que j'ai déjà fait une partie du chemin.
Bon. Voilà. Je vous embrasse.
Mon mari est très, très près de moi. Ça, je peux vous le dire.
J'en doute pas une seule seconde. Oui, et c'est très bien comme ça. Je vous embrasse, Christine.
vous embrasse aussi, Sabine. Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne soirée. Merci.